France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Jonathan Boucher-Peterson est là pour Libération, Patricia Lémonière, spécialiste des questions internationales, et François Hernenwein, responsable éditorial de l'hebdomadaire Réforme. Personne n'imposera à qui que ce soit l'aide à mourir. Ce sont les premiers mots de Catherine Vautrin, la ministre de la Santé, qui tente de rassurer en ouverture de son audition devant la commission spéciale de l'Assemblée sur la fin de vie. C'est en cours en ce moment à l'Assemblée. C'est un rendez-vous avec tous les Français, c'est ce qu'elle dit également. Un sujet évidemment très sensible, et elle le sait notamment chez les soignants. Le texte a entamé un long parcours parlementaire qui va durer potentiellement 2 ans, et avec des auditions présidées par l'ancienne ministre Agnès Firmin-Lebaudeau, qui a préparé le texte et qui était ce matin l'invité de France Info, là encore, pour rassurer.
Cette loi, c'est-à-dire cette possibilité qui sera offerte lorsque la loi sera votée, n'oblige personne. D'abord, elle n'oblige pas les médecins, elle n'oblige pas non plus nos concitoyens, j'allais dire les plus vulnérables, à demander l'aide à mourir. C'est surtout pas ça l'objet.
Les lois créent des usages. C'est ça un petit peu la crainte
des opposants. Oui, mais je le répète, c'est offrir une possibilité dans des conditions très restrictives, et je le redis, cette loi n'oppose pas ni soins palliatifs à l'aide à mourir. Elle ne retire en rien la qualité, j'allais dire, de l'accompagnement proposé dans les unités de soins palliatifs. C'est bien, dans des conditions très restrictives, il ne faut jamais les oublier, que nous allons permettre une certaine possibilité, dans certains cas, pour pouvoir bénéficier de l'aide à mourir.
Alors, on a beaucoup entendu ces dernières semaines l'inquiétude de nombreux soignants. On va écouter Ségolène Perruccio, puis on en débat juste après, médecin en soins palliatifs et vice-présidente de la Société française d'accompagnement et soins palliatifs.
L'aide active à mourir n'est pas un soin. L'aide active à mourir supprime le malade. Le soin, c'est quelque chose qui doit avoir un effet positif pour le malade. Donc, nous nous opposons à toute évolution de la loi qui impacterait la relation de soins. Parce qu'aujourd'hui, un patient qui vient me voir en me disant « je voudrais mourir », je m'assois à côté de lui, je montre comment moi je peux vous aider. Et si demain, je dois lui dire « alors est-ce que vous répondez bien aux critères ?», je n'aurai plus la place pour cette phrase « comment je peux vous aider ?». Vous ne pouvez pas à la fois dire « votre vie en vaut la chandelle et j'ai envie de tout donner pour prendre soin de vous, quel que soit votre état, y compris dans des états très dégradés », et d'un autre côté, lui faire passer le message que c'est vrai que dans sa situation quand même, il vaudrait peut-être mieux qu'il meure et je vais l'aider.
Alors, François Hernenwein, il y a une espèce de paradoxe dans tout ça, et on a bien compris que c'est un débat qui va prendre du temps, mais paradoxe entre le fait que l'opinion réclame cette mesure, c'est ce que dit aussi Catherine Vautrin, une certaine impatience dans notre société d'avoir ce débat, notamment ce débat. Et puis, les soignants, c'est surtout eux qu'on a entendu ces dernières semaines, qui disent « nous, on n'est pas là pour donner la mort, mais pour soigner ».
Le débat n'est pas seulement entre l'opinion et les soignants, c'est un débat éthique fondamental, et je trouve que les voies et les moyens choisis par le gouvernement au Parlement sont des voies et des moyens assez intéressants. Il y aura 2 mois, là, de discussions approfondies et de consultations massives. Je me réjouis que ça se passe comme ça. Parce que contrairement à ce que dit parfois Catherine Vautrin ou d'autres, il y a des zones d'ombre dans cette loi.
C'est-à-dire
Par exemple, moi, l'exemple qui me frappe, c'est quand le pronostic vital est engagé à moyen terme. Qui de nous peut dire quand commence le moyen terme? Qu'est-ce que c'est le moyen terme? 6 mois, 2 ans. C'est plein d'ambiguïtés qu'il faudra éclaircir au moment de la rédaction de la loi. Je prends cet exemple parmi d'autres qu'on pourrait trouver. Donc je pense qu'il y a un véritable travail d'affinement, d'approfondissement dans cette législation pour éviter les crispations. Et je pense que la méthodologie choisie à travers cette commission spéciale est une méthodologie intéressante. Tout le monde pourra s'exprimer et au bout d'un moment, le législateur fera son travail.
Jonathan Boucher-Peterson.
Oui, après, c'est pas comme si le débat commençait maintenant.
C'est-à-dire que... Certes, mais il peut se prolonger.
Oui, ça, c'est un petit peu aussi la technique de l'évitement.
Et vous sentez qu'il a commencé, sincèrement?
Oui. Ça fait quand même des années. Après, quand on rentre dans le détail de la rédaction, évidemment qu'il faudra se prononcer sur un projet de loi. Mais c'est la responsabilité de l'exécutif, pour le coup, de mettre un sujet sur la table. Dans ces cas-là, on en débattra. Mais lever les incompréhensions ou entendre les positions de chacun, que ce soit les différents corps de la société, religieux, médicaux, ou représentants des malades, oui, il y a eu le Comité national d'éthique s'est prononcé. Il y a eu la commission Falorni qui, quand même, a fait aussi énormément d'auditions, même si, comme la perspective de la loi était moins proche, ça a été moins médiatisé. Mais ça va beaucoup être un exercice de répétition de choses qui ont déjà été dites, dans un contexte, en plus, où l'opinion est très majoritairement d'accord avec ce droit. Après, ça ne veut pas dire que le diable ne peut pas se nicher dans les détails, ça, évidemment. Mais dans ces cas-là, il vaut mieux mettre un texte sur la table et que les gens se positionnent dans ça me pose problème, ça, plutôt que deux ans, ça paraît interminable, honnêtement, par rapport à la maturité de l'opinion sur ce sujet-là. Et encore une fois, je trouve qu'il y a toujours un biais, en fait, à dire les soignants, quand on entend les soignants dont le métier est de faire du soin palliatif. Évidemment que ces professionnels-là sont particulièrement vigilants ou se sentent un peu contestés, parce qu'il y a toujours cette opposition un peu stérile. Et je pense que c'est important de dégonfler ça en disant c'est ou le soin palliatif ou le droit à mourir dans la dignité, en gros, pour reprendre l'expression. Évidemment que tout ça est un même package qui s'accompagne. Et ce qu'on remet un petit peu au centre, c'est pas de dire je vais venir voir un soignant et c'est le soignant qui pourra plus faire son métier et qui ne sera plus là que pour donner la mort. C'est qu'on remet le patient au centre, d'une certaine manière. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines de la médecine, c'est quelle est la volonté du patient. Il y a une réalité qui s'exerce avec des gens qui ou le font de façon clandestine ou le font à l'étranger. Donc au bout d'un moment, il faut aussi regarder les choses telles qu'elles sont et essayer d'apporter un peu plus de facilité. Pardon, je suis long, mais c'est des sujets que c'est difficile à traiter en une demi-phrase.
Non. Alors, Patricia Lemeyer, juste pour amorcer, puis on poursuivra.
Oui, enfin, pour amorcer, comment amorcer justement un sujet qui mériterait une heure de discussion, en tout cas.
L'enjeu du débat qui et des auditions là et des deux ans de débat, c'est de où sont les points sur lesquels le texte peut évoluer. En fait, c'est ça.
Le texte va cesser d'évoluer. C'est justement pour ça que ça va prendre du temps. On en a défini un des termes. C'était justement le court terme, le moyen terme, qui ne sont absolument pas clairs. Il y a aussi dans ce dossier, il y a aussi tous les soins palliatifs. Il y a tout le renforcement des soins palliatifs qui doit être mis en place. Mais la France reste quand même très, très prudente sur ce terrain-là par rapport aux autres pays. Dans d'autres pays, c'était totalement légalisé. Hein, je parle les Pays-Bas, la Belgique. Dans d'autres pays, c'était dépénalisé. C'est différent. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Enfin, on est quand même très en retard alors qu'on a une appétence sociale, une volonté de la société de bouger. Et on a l'impression qu'il y a une extrême... Alors, je pense qu'il est bon qu'au niveau gouvernemental, on ait été prudent dans l'énoncé de ce texte et qu'il va être travaillé. Mais on a une extrême retenue de nos politiques. On a l'impression que la France est quand même très conservatrice sur ces questions sociales.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
On débat de ce texte sur la fin de vie qui a entamé aujourd'hui son parcours parlementaire, qui va être très long, on l'a dit, avec Patricia Lemeyer, avec Jonathan Boucher-Petersen de Libération, François Hernwein de Réforme, l'hebdomadaire protestant. Il y a en sous-texte dans tout ce débat, finalement, ce que certains imaginent comme une dérive possible d'offrir ce droit, cette possibilité-là, pourrait amener une dérive. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous percevez, est-ce que vous croyez à cette dérive
Non mais, pardon.
François Hernwein.
À mon avis, il ne faut pas tomber dans le complotisme. Il n'y a pas de mauvaises intentions de la part du gouvernement. Mais l'usage qui est fait quand la liberté est consacrée trop largement peut être ambigu. Il y a des enjeux économiques dans les soins palliatifs et la tentation peut
exister. Alors là, il y a un plan d'1 milliard qui est effectivement jugé très, très, très important.
Voilà, oui, mais heureusement qu'il y a cette
offre. D'ici 2034, sur 10 ans.
Oui, c'est le double de la loi et ça me paraît extrêmement important. Je rappelle quand même qu'il y a au moins 20 départements français où les habitants de ces départements n'ont pas accès aux soins palliatifs. Et si on veut laisser le choix aux gens, il faut que les possibilités de soins existent. Or, c'est une condition nécessaire. Et moi, je pense que le gouvernement, dans son approche, là, a été relativement raisonnable. Il n'est pas porteur d'audace folle. Donc, c'est pas la peine de dire « trembler, la loi va être adoptée ». Et d'ailleurs, à titre d'information, vous le savez sans doute mieux que moi, à l'intérieur des grandes confessions en France, il y a eu des prises de position officielles assez hostiles à l'aide à mourir, mais quand vous regardez la pluralité des intervenants dans les différentes confessions, vous voyez que les nuances viennent à l'appel. Donc on voit bien que ce débat, il a lieu d'être, c'est bien qu'on discute, et c'est bien qu'on cherche à convaincre aussi.
Enfin, c'est bien, effectivement, c'est bien qu'on discute sur l'évolution qui est crainte et qui est agité d'une société qui se débarrasserait de ses anciens, posons les termes comme ça, effectivement.
De ses mourants.
Mais oui. De ses mourants et de ses anciens, voilà. Et la question se pose, mais je crois que le texte qui a été choisi met tellement de barrières et tellement de barrières à cette mesure, eh bien que ce n'est pas le sujet de l'agité. En revanche, je comprends très bien ce que la personne que vous aviez interviewée juste avant, cette soignante, effectivement, ses réserves, parce que elle, son but, c'est d'accompagner dans la mort, dans la dignité, en étant au plus près du malade jusqu'à la fin. Et
rien n'empêche, en fait, c'est ça.
Rien n'empêche. Effectivement de mener ça, mais moi ce qui me choque aussi beaucoup, c'est dans cet accompagnement, on sait quand même qu'aujourd'hui il y a très peu d'enfants qui ont besoin de cet accompagnement jusqu'à la fin, qui bénéficient de soins palliatifs, que 30%, c'est rien sur le plan national, 50% des adultes, c'est rien. Donc effectivement, je crois que mener un texte qui porte les soins palliatifs en priorité et qui aussi traite effectivement c'est pas l'euthanasie qui a été choisie, hein, comme terme. Justement, c'est l'aide à mourir qui traite de l'aide à mourir avec toutes les restrictions qui sont apportées. Je crois que c'est bien qu'on en débatte et je crois que ce texte devrait pourtant, vu l'adhésion populaire, arriver quand même un peu plus tôt. 2 ans me semble long. 2 ans pour les soins palliatifs, ça me semble long. Et 2 ans pour l'aide à mourir aussi me semble long. Mais peut-être que nos députés veulent.
C'est l'exécutif, surtout, qui est très...
Pourquoi si long, d'ailleurs ?
Il y a une crainte, quand même. Quoi. Et puis, il y a une façon de poser le débat qui est quand même pas très honnête, déjà dans certaines oppositions. C'est-à-dire, quand on entend les Républicains, aujourd'hui, dans un discours très, très conservateur et plutôt dans une logique un peu pro-vie, quand même, dans ces franges-là, que ce soit François-Xavier Bellamy ou que ce soit même Éric Ciotti, il y a une façon de jouer avec les peurs là-dessus. Alors que c'est pas la première fois qu'il peut y avoir un peu un abaissement du débat public au sein de nos responsables politiques et une maturité de la société. Sur beaucoup de sujets, il y a quand même... qu'il y ait des prudences, qu'il y ait le préalable des soins palliatifs renforcés avant d'aller dans cette bascule, qui est quand même pas vraiment non plus un grand Big Bang, mais qui est plutôt la fin d'une hypocrisie ou d'une grande précarité pour ceux qui voulaient y avoir accès. C'est-à-dire que c'est plutôt la loi qui rattrape le réel, d'une certaine manière. On n'ouvre pas une boîte de Pandore. Et encore une fois, quand
vous
on décrit...
C'est une pratique
qui était assez discriminatoire sur le plan social, parce qu'il fallait pouvoir se payer le voyage, ou il fallait pouvoir... c'était plus difficile aussi pour des personnes qui sont isolées ou qui sont pas dans des... Souvent, c'est quand même des... Enfin, moi, je vois, c'est assez rare quand on passe dans des émissions de recevoir en direct des messages de gens qui réagissent. Je vois que typiquement, voilà, moi, j'ai déjà eu 3 messages depuis qu'on a commencé à aborder ce sujet, de gens qui disent « J'ai été confronté à cette situation, ça a été une immense douleur dans notre famille de ne pas pouvoir compter sur l'État pour franchir ce palier-là. Il faut que le gouvernement avance. » Donc, il faut aussi entendre. Ça veut pas dire que ça devient la norme et que l'ensemble des personnes, ce sera leur façon de mourir. C'est pas du tout ça le sujet. Et encore une fois, on n'arrivera pas dans un hôpital ou au contact de soignants le lundi en disant « J'ai décidé » et la pilule sera donnée ou l'injection le mardi. On n'est pas là-dedans.
Dans la loi, il est prévu que les gens expriment clairement leur volonté.
Et la répètent.
Donc c'est une indication quand même des bornes qui sont posées. Ouais. Et moi, je suis d'accord avec cette interprétation. Mais je veux pas pousser les chicaneries trop loin. Mais je vous repose la question collectivement. Comment vous définissez le moyen terme? C'est 6 mois, c'est 2 ans. Catherine Vautrin, je l'entendais à France Inter, avait évoqué 6 mois. Mais l'interprétation du texte...
Il y a beaucoup de restrictions.
Ça dépend dans quel état aussi.
On va rappeler, il y a 5 critères. Il y a être majeur, être résident français, la volonté libre et éclairée, le pronostic vital engagé. Ce sont les médecins qui vont le déterminer. Et la souffrance impossible à soulager.
Mais les médecins témoignent eux-mêmes que déterminer un pronostic vital à moyen terme... C'est de la gnognotte, c'est pratiquement impossible. Entre 6 mois et 2 ans, vous pouvez pas savoir combien de temps votre patient tiendra. Mais c'est juste, je voudrais qu'on lève cette ambiguïté dans le texte.
C'est très difficile à lever.
Est-ce qu'elle est levable?
Oui, c'est ça, c'est très difficile à lever. On ne peut pas dire à quelqu'un...
François, on ne peut pas déterminer une durée générale.
Non, c'est évidemment terme, ça me paraît raisonnable par rapport à l'objectif du texte. Moyen terme, ça me paraît ambigu.
Par exemple, quand on prend la maladie de Charcot, par exemple, qui est un des exemples qui est souvent donné, c'est pas pareil d'être dans les 6 derniers mois ou la dernière année d'une maladie de Charcot que d'être dans un processus, par exemple, de traitement d'un cancer dont on sait peut-être que l'issue est très probablement la mort. Voilà, encore une fois, il y a une part... je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir mettre des critères. On pourra pas trouver des critères absolument parfaits en disant c'est 6 mois, bah non, il vous manque à moi. Votre espérance de vie, c'est 7, donc vous en sortez. On est dans de la matière qui est humaine, et pas simplement dans l'édiction d'une norme. Donc là, on a plus l'idée de mettre une forme de garde-fou un peu collectif. Après, effectivement, il restera peut-être une part d'incertitude. On ne pourra pas dire c'est 6 mois et pas autrement. C'est pas un
requis permis. Vous l'avez dit très bien sur toutes ces questions-là. Si on veut légiférer de manière acceptable pour l'ensemble de la société, le diable se loge dans les détails. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention aux détails.
Bien sûr.
C'est exactement pour cette raison, d'ailleurs, que le temps long est prévu aussi sur le... le débat lui-même,
le texte. Sans fermer pour autant le texte, parce que si on clôture trop le texte, après on rentre dans une forme de rigidité et qui rend toutes ces maladies qui sont justement des maladies qui sont évolutives, eh bien parfois des gens peuvent toutes les maladies dégénératives, eh bien sont coincées par un texte trop fermé.
Voilà, vous voulez dire qu'ils ne pourront plus donner leur volonté. Et c'est un des sujets,
alors,
notamment.
Il y a aussi le sujet de donner sa volonté, Alzheimer, effectivement.
Alzheimer. C'était ça que vous vouliez pointer. Le texte arrivera à l'Assemblée le 27 mai, hein, et les débats, évidemment, on aura l'occasion d'y revenir.